histoire surprenante des contes de fées, Jean-Louis Lahaye.
En avant les amis, nous partons pour le pays imaginaire.
Quand on a peur, on crie, on pleure. Sorcière, sorcière.
Il y avait des loups dehors, il y avait des loups dehors, des grands loups carnivores.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre série « L'histoire surprenante des contes de fées ». Installez-vous bien confortablement dans votre voiture ou sur votre canapé. Allumez un feu ou mettez les sièges chauffants. Prenez vos enfants ou petits-enfants sur vos genoux et laissez-vous bercer par ces magnifiques histoires qui ont marqué notre enfance. Et pour les plus grands, en deuxième partie d'émission, nous vous dévoilerons la face cachée de ces contes de fées. Amour, aventure, magie, bien sûr. Mais aussi cannibalisme, meurtre, suicide. Avec nos experts, nous découvrirons les versions originales de ces contes et tous leurs secrets. L'Iliade, l'Odyssée. Pour certains, ces mots résonnent comme des monuments de la littérature. Pour d'autres, elles évoquent de belles histoires écoutées depuis les bancs d'une salle de classe. Ces mythes prennent source dans la Grèce antique, dans des villes qui ont existé. Sparte, Troie, Ithaque, bien sûr. En ces temps-là, on pensait que la Terre était plate. On croyait en des dieux puissants et imprévisibles qui contrôlaient la mer, le soleil, la mort. Des dieux qui, depuis le mont Olympe, observaient les humains et intervenaient parfois au gré de leurs humeurs. Et puis il y avait des hommes et des femmes. Simple mortel, mais dont les aventures et la bravoure fascinaient même les dieux. Ce fut le cas d'Ulysse, roi d'Ithaque, héros de la guerre de Troie et personnage central de ces deux grands chefs-d'œuvre. L'Iliade retrace la grande guerre qu'il mena contre les Troyens, l'Odyssée, son périple pour regagner sa patrie, Ithaque. Force est de constater que les aventures d'Ulysse n'ont pas pris une ride. Composées par Homère il y a plus de 2500 ans, comment expliquer que ces histoires, ou plutôt ces poèmes, aient ainsi traversé les siècles pour faire partie aujourd'hui des œuvres les plus anciennes et pourtant les plus célèbres de la littérature occidentale? Un mystère subsiste autour du poète. A-t-il seulement existé? C'est toute la question homérique. Allez, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire surprenante de l'Odyssée. Il était une fois un courageux guerrier qui venait de mettre fin à une guerre de 10 ans grâce à son extrême ingéniosité. Ce guerrier s'appelait Ulysse et la guerre qu'il venait de remporter s'appelait la guerre de Troie. Et ça c'est une autre histoire qui s'appelle l'Iliade. Celle que j'aimerais vous raconter aujourd'hui retrace l'épopée incroyable du retour d'Ulysse chez lui. Elle commence le jour où Ulysse prit la mer avec ses 12 vaisseaux et mit le cap vers Ithaque, l'île dont il était le roi. Après 10 années à guerroyer, il lui tardait de retrouver sa belle épouse Pénélope et son fils Télémaque. Ce voyage de retour ne devait durer que quelques jours et il dura 10 ans.
Polyphème, le cyclope et personne.
Les 12 navires d'Ulysse levèrent l'ancre et quittèrent la côte troyenne. Mais peu de temps après leur départ, une terrible tempête se leva. Ulysse dut faire accoster ses vaisseaux sur une île luxuriante, mais inconnue. « J'ignore où nous sommes, » confessa Ulysse à ses hommes. « Mais profitons-en pour réapprovisionner le bateau en vivres. » Il désigna quelques-uns de ses marins. « Vous et vous, suivez-moi. Nous partons en éclaireur, voir ce que cette île a à nous offrir. » Bientôt, ils découvrirent une grotte qui semblait habitée. Pourtant, il n'y avait personne, hormis un troupeau de chèvres aussi grandes que des poneys et des montagnes de bon fromage. Alors que nos hommes se servaient, ils entendirent des pas très bruyants.
« Quelqu'un arrive ! Vite, cachons-nous !»
ordonna Ulysse. Un énorme monstre, grand comme 10 hommes, entra dans la grotte. C'était le cyclope Polyphème, fils du dieu des mers, Poséidon.
« Qui est là ?»
rugit le géant. Ulysse s'avança courageusement. Rusé, il répondit
« Bonjour, je m'appelle Personne. Nous sommes des naufragés. Et voici mes hommes. »
Mais il ne finit pas sa phrase. Le cyclope saisit 2 des marins et les dévora vivants. Puis il roula une grosse pierre devant l'entrée de la grotte afin que les autres ne puissent pas fuir. Les jours passèrent et à chaque lever de soleil, le cyclope mangeait un membre de l'équipage. Ulysse échafauda alors un plan. Pendant que le cyclope dormait, ils fabriquèrent un long pieu avec la branche d'un arbre qui poussait dans la caverne. Quand le cyclope se fut endormi, ils crevèrent son unique œil avec le pieu. Le géant hurla et les hommes filèrent se cacher sous les chèvres. Les cris du géant attirèrent les autres cyclopes de l'île. Ils firent rouler la pierre qui bloquait l'entrée de la grotte.
« Que se passe-t-il, Polyphème ?»
demanda un des cyclopes.
« Pourquoi cries-tu comme ça ? C'est personne !»
cria Polyphème.
« Personne n'a fait mal !»
Alors si c'est personne, tu dois être malade ou avoir bu. Allons, dis une prière à ton père Poséidon.
Là-dessus, ils s'en allèrent, laissant s'échapper le troupeau de chèvres avec Ulysse et ses hommes cachés dessous. Ayant enfin rejoint son bateau, Ulysse nargua une dernière fois le cyclope.
Je t'ai bien eu, Polyphème. Mon nom est Ulysse, roi d'Ithaque. Et aujourd'hui, Zeus punit ta cruauté.
Les navires s'éloignèrent et les marins pleurèrent. La perte de 6 d'entre eux. Pendant ce temps, à Ithaque, Pénélope et Télémaque attendaient Ulysse. La guerre de Troie était finie, disait-on, et le roi allait enfin rentrer.
Le dieu Éole et l'outre des vents.
Les vaisseaux d'Ulysse reprirent leur voyage, mais le dieu des mers, Poséidon, décida de venger son fils Polyphème, désormais aveugle. Il déclencha une nouvelle tempête qui les éloigna plus encore de leur chère île d'Ithaque. Épuisés, les marins réussirent à jeter l'ancre sur l'île du dieu Éole. Celui-ci les accueillit chaleureusement et pendant un mois, ils purent se reposer et reprendre des forces. S'étant pris d'amitié pour Ulysse, Éole décida de les aider. Il leur remit une outre qui contenait tous les vents sauf le vent doux de l'ouest qui les ramènerait à Ithaque.
« N'ouvre pas cette outre tant que vous ne serez pas rentrés, » avertit Éole. « Sans quoi tous les vents violents vous ramèneraient ici. La mère de Poséidon ne vous sera pas clémente car il cherche à venger son fils. » Mais le doux vent de l'ouest sera de votre côté. »
En seulement quelques jours de navigation, Ulysse aperçut enfin Ithaque. Hélas, au moment où les navires allaient accoster, Ulysse vit un de ses hommes ouvrir l'outre, croyant y trouver un trésor. Tous les vents s'échappèrent dans une explosion assourdissante. La flotte d'Ulysse fut réduite en charpie et presque tous ses hommes périrent en mer. Seul le navire d'Ulysse fut épargné. Perché sur la crête d'une vague immense, il fut emporté bien loin de sa patrie. Pendant ce temps, à Ithaque, Pénélope et Télémaque attendaient toujours Ulysse. Et des prétendants commençaient à convoiter le trône du roi, ainsi que son épouse.
Les pourceaux de l'envoûtante Circé.
Le dernier navire d'Ulysse s'échoua sur une nouvelle île inconnue. Les marins avaient perdu tant de leurs frères qu'ils tremblaient de peur à l'idée de découvrir quelques nouveaux monstres. Quelques hommes partirent en éclaireur. L'île semblait pacifique. Et les marins découvrirent bientôt un palais entouré d'animaux paisibles. Une éblouissante jeune femme, vêtue d'une tunique brillante, se présenta à eux, un sourire énigmatique aux lèvres.
« Je suis la déesse Circé et je vous souhaite la bienvenue. »
Circé les convia à dîner. Mais la nourriture devait être ensorcelée car, à la fin du repas, les marins tombèrent à 4 pattes et ils sentirent leur pousser des groins et des oreilles de cochon. Heureusement, un des marins, prudent, n'avait touché à rien. Il réussit à s'enfuir pour alerter Ulysse. Ulysse empoigna son épée et se rendit au palais de la déesse pour délivrer ses hommes. Sur son chemin, il croisa Hermès, le messager ailé des dieux, qui le mit en garde contre Circé et lui tendit une fleur blanche.
« Tiens, roi d'Ithaque, cache cela dans ta tunique. Ainsi les sortilèges de Circé seront sans effet sur toi. »
Circé accueillit Ulysse avec chaleur et lui offrit à boire et à manger. Elle l'observa attentivement, mais rien ne se passa.
Ulysse tira alors son épée, ordonnant à la déesse de libérer ses compagnons et de leur rendre leur apparence.
Vaincu, Circé obéit et leur offrit même l'hospitalité. Les marins restèrent une année sur l'île pour se reposer et rafistoler leurs bateaux abîmés par les précédentes tempêtes. Quand enfin ils firent leurs adieux à Circé, elle leur conseilla de se rendre dans les enfers du dieu Hadès et d'y trouver l'âme du devin Tirésias. Lui seul pourrait leur indiquer comment rentrer chez eux. Puis Circé souffla un doux vent sur le vaisseau d'Ulysse qui fut emporté vers le royaume des morts.
Et pendant ce temps, à Ithaque, Pénélope attendait toujours Ulysse.
Les prétendants se comportaient à présent comme s'ils étaient chez eux. Certains s'asseyaient même sur le trône du roi absent. Et Télémaque, devenu un jeune adolescent, vociférait, impuissant.
Descente en enfer.
Les vaisseaux d'Ulysse atteignirent rapidement la terre des morts. Ils abordèrent une grève enveloppée d'un noir brouillard et se mirent à creuser un trou vers les profondeurs de la terre. Selon les instructions de Circé, Ulysse déversa des offrandes dans la fosse, ce qui réveilla les morts. Des ombres noires se mirent à flotter tout autour d'eux en hurlant. Parmi elles, une ombre s'avança. C'était le devin Tirésias. Il leur fit cette prédiction.
« Ulysse, compagnon d'Ulysse, « vous désirez rentrer chez vous, mais le dieu Poséidon est en colère et veut venger son fils aveugle. Suivez mon conseil. Quand vous aborderez l'île du bétail doré, ne touchez pas au troupeau du dieu Soleil, sinon vous serez tous punis. »
Ulysse remercia le devin. Ils allaient partir quand d'autres âmes se présentèrent. Ulysse reconnut sa mère Anticlée, qui lui confia que la belle Pénélope, son épouse, l'attendait toujours avec leur fils Télémaque. Mais des prétendants menaçaient de prendre sa place sur le trône. Ulysse discuta ensuite avec les grands guerriers, Agamemnon et Achille. Bientôt des milliers d'âmes les entourèrent. Aussi jugèrent-ils opportun de s'en aller et firent cap vers l'île du dieu Soleil. Et pendant ce temps à Ithaque, Pénélope promit qu'elle épouserait un prétendant quand elle aurait fini de tisser un grand drap.
Les sirènes et le détroit de Messine.
Pendant quelques jours, les marins profitèrent des vents favorables qui poussaient le bateau. Mais le calme fut de courte durée. Un matin, un des marins hurla qu'il y avait des sirènes dans le ciel. Tous levèrent la tête pour voir les créatures, des oiseaux à tête de femme qui tournoyaient autour du navire. Il est connu que les sirènes chantent pour attirer les marins afin de les dévorer. Aussi se dépêchèrent-ils de mettre de la cire dans leurs oreilles. Sauf Ulysse, qui, curieux, voulait écouter ce chant mélodieux. Il se fit attacher au mât du navire et fit promettre à son équipage de ne le libérer sous aucun prétexte. Les sirènes chantèrent. Ulysse implora qu'on le relâche, mais il était bien attaché. Les marins ramèrent de plus belle pour éloigner le vaisseau de ses belles tentatrices. Pendant ce temps, à Ithaque, Pénélope et Télémaque attendaient Ulysse, et la fine Pénélope tissait un drap le jour qu'elle défaisait la nuit afin de faire patienter ses prétendants.
L'île du dieu Soleil.
Le vaisseau d'Ulysse voguait en silence en direction de l'île du dieu Soleil. Quand ils accostèrent enfin, les marins étaient très abattus par la perte de leurs amis. Par ailleurs, ils étaient affamés et fatigués. Alors quand ils entendirent le doux meuglement des bœufs sacrés, ils se précipitèrent pour aller chasser. Mais Ulysse les rappela à l'ordre.
N'oubliez pas l'avertissement du devin Tirésias. Nous serons punis si nous touchons au bœuf sacré de l'île. »
Les marins étaient accablés. Ils profitèrent néanmoins de cette étape pour se reposer. Ils parvinrent à se nourrir avec le reste des vivres que leur avait offert la déesse Circé. Hélas, bientôt la nourriture se fit plus rare et ils ne résistèrent pas à la tentation des bœufs gras et délicieux. Quand Ulysse fut endormi, ils tuèrent les bêtes et firent un grand festin. L'odeur de bœuf rôti réveilla Ulysse, horrifié. Il apostropha ses hommes, mais il était trop tard. Les viandes sur les broches se mirent à bouger et à meugler atrocement. À l'aube, les hommes d'Ulysse, pâles et encore terrifiés, hissèrent la grand voile et le vaisseau quitta l'île à la hâte. Mais Hélios, maître de l'île, invoqua Zeus et lui demanda de punir les hommes pour avoir profané son bétail. Alors que le bateau d'Ulysse gagnait le large, un coup de vent les frappa avec la force d'un ouragan. Le vaisseau se brisa et sombra, et tout l'équipage d'Ulysse se noya sous des vagues immenses. Seul Ulysse, qui n'avait pas touché au bétail sacré, fut épargné. Il s'accrocha désespérément au mât du navire, qui flottait encore, et dériva ainsi pendant 9 jours. Et pendant ce temps, à Ithaque, Pénélope tissait. Et Télémaque recevait la visite de la déesse Athéna qui lui proposa de l'accompagner chercher son père.
La prison dorée de Calypso.
Ulysse était évanoui quand le mât de son vaisseau s'échoua sur l'île de la nymphe Calypso. Quand il se réveilla, il était allongé dans une chambre luxueuse et Calypso lui souriait aimablement. Mais après l'avoir aidé à reprendre les forces, Ulysse comprit que la déesse était tombée sous son charme et que jamais elle ne le laisserait partir. Il tenta de fuir par tous les moyens, mais à chaque fois, elle le rattrapa. Ulysse passa 7 longues années chez Calypso. 7 années à pleurer, tant sa femme et son fils lui manquaient. Heureusement, depuis le mont Olympe, les dieux eurent pitié de son sort. Athéna supplia son père, Zeus, le dieu des dieux, d'intervenir enfin.
« Père, cet homme, ce héros de la guerre de Troie dont tous saluent les exploits, n'a-t-il pas assez souffert ?»«
Il s'est bien battu pour l'honneur des Grecs. Il est temps de le récompenser. »
Il fut décidé qu'Hermès irait plaider la cause du roi d'Ithaque auprès de Calypso. Devant la volonté des dieux, la nymphe n'eut pas d'autre choix que de libérer Ulysse. Elle l'aida à bâtir un radeau et lui promit qu'il serait chez les Phéaciens après 20 jours de navigation. Puis les Phéaciens le ramèneraient chez lui. Ulysse quitta l'île de Calypso et, après une longue traversée, il aperçut la terre des Phéaciens. Pendant ce temps, à Ithaque, Pénélope dut céder aux exigences de ses prétendants. Persuadée qu'Ulysse était mort depuis longtemps. Elle organisa donc un tournoi de tir à l'arc promettant d'épouser le vainqueur.
Retour à Ithaque.
Les Phéaciens déposèrent Ulysse à Ithaque. La déesse Athéna le somma de ne pas rejoindre immédiatement son palais car ses ennemis y étaient nombreux. Elle le déguisa en mendiant et ils allèrent d'abord trouver Télémaque, son fils. Les retrouvailles furent joyeuses et de grosses larmes coulèrent sur leurs joues. « À présent, mon fils, il nous faut chasser ces ennemis qui veulent usurper ma couronne et épouser ma femme. Va au palais, Télémaque, et cache toutes les armes que tu trouveras. Surtout ne dis rien à personne, même à ta mère, car on ne doit pas savoir que je suis rentré. » Télémaque obéit. Le lendemain, Ulysse, toujours déguisé en mendiant, se présenta au tournoi de tir à l'arc. Les prétendants l'accueillirent avec mépris. Mais lui n'avait Dieu que pour Pénélope, son épouse, qui était toujours aussi belle. Pénélope présenta l'arc et les flèches d'Ulysse aux prétendants. Mais après des heures à tenter de faire passer les flèches dans une série d'anneaux, les prétendants durent abandonner. Ulysse déclara qu'il voulait également participer, provoquant l'hilarité générale. Toujours vêtu de son costume de mendiant, il tendit l'arc, visa et réussit du premier coup.
Il retira alors son accoutrement et tous reconnurent le roi d'Ithaque. Ulysse tua un à un tous les prétendants qui n'avaient plus d'armes car Télémaque les avait toutes cachées. Puis enfin, il enlaça son épouse et son fils adoré. Ils étaient son port d'attache retrouvé. Toute la nuit, il raconta à sa femme ses errances et ses aventures. Et Athéna retarda l'aube, car c'était une longue histoire.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays et vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté. Avec le soleil et le vent, avec la pluie et le beau temps.
L'interview vérité.
Nous venons d'entendre l'incroyable odyssée d'Ulysse, évidemment très résumée. J'aimerais maintenant accueillir notre experte en conte qui va nous en dire un peu plus sur cette fameuse épopée. Bonjour Gaëlle Rucois.
Bonjour Jean-Louis.
Gaëlle, vous êtes diplômée de l'école de journalisme IEX. Aujourd'hui, vous êtes en charge de l'ASBL de Livre en Livre et depuis une dizaine d'années, vous êtes aussi conteuse pour les enfants défavorisés. Alors Gaëlle, l'Iliade et l'Odyssée, deux monuments de la littérature. Ils sont au programme dans presque toutes les écoles d'Europe, voire du monde. Vous nous dressez la carte d'identité d'Ulysse et de ses aventures ?
Bien sûr. Alors, l'Iliade et l'Odyssée, qui d'ailleurs veut dire Ulysse en grec, eh bien, comme vous l'avez dit, ce sont deux monuments littéraires et poétiques qui ont été livrés à l'humanité il y a presque 3000 ans. Alors, le fait qu'ils aient réussi à passer l'épreuve du temps est juste extraordinaire. D'autant que, rappelons-le, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la transmission culturelle s'est faite oralement. Évidemment, l'Iliade et l'Odyssée n'ont pas échappé à cette règle. Ce sont donc deux recueils de poèmes qui ont d'abord été chantés.
Ces deux œuvres sont attribuées à Homère. Mais c'était qui, Homère ?
Ah, eh bien, on en sait très peu sur Homère. Et d'ailleurs, beaucoup d'historiens se sont et se posent encore la question de savoir s'il a vraiment existé. C'est la fameuse question homérique.
Mais qu'est-ce qui nous a amené à penser qu'il pourrait ne pas exister ?
Eh bien déjà, à cause du manque d'informations sur lui. En fait, on sait quasiment rien d'Homère. Et on pourrait présenter chaque caractéristique le concernant au conditionnel. Alors, il aurait été un poète du 8e siècle avant Jésus-Christ, il aurait été aveugle et surtout, il aurait composé l'Iliade et l'Odyssée. Parce que de nombreux éléments dans les deux récits permettent de douter qu'Homère en soit l'auteur.
Ah bon ?
Oui, en fait, depuis le 17e siècle, des théories avancent que le style utilisé tout au long des deux épopées n'est pas du tout homogène. Par exemple, des personnages meurent et reviennent au chapitre suivant. Certains détails renvoient à des époques complètement différentes. Et tout ça laisse à penser eh bien, que ces deux récits ne sont pas la signature d'un seul homme. Et puis, il y a d'autres théories qui s'accordent aussi à dire que plusieurs auteurs ont sans doute concouru à l'Iliade et à l'Odyssée, mais l'un d'entre eux, le plus inventif, serait vraisemblablement Homère.
Que de mystère ! Merci Gaëlle pour ce précieux rappel de nos fondamentaux littéraires. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur l'histoire surprenante des contes de fées, mais aussi des mythes et légendes d'antan.
Merci Jean-Louis, à bientôt.
La morale de l'histoire.
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Un beau voyage, peut-être. Mais un voyage initiatique, tout de même semé d'embûches par les dieux et par la fantaisie du ou des poètes homériques. Ainsi, chaque étape délivre son épreuve et chaque épreuve sa morale. Polyphème le Cyclope nous prouve bien que l'intelligence triomphe de la force. Les sirènes nous font passer l'épreuve de la tentation. Le dieu du vent fait payer aux hommes d'Ulysse leur cupidité. Le dieu du soleil, leur gourmandise, etc., etc. Mais au travers de chaque épisode, Ulysse fait aussi preuve d'une autre qualité, la ruse. Car Ulysse le stratège n'est pas seulement l'inventeur du cheval de Troie, il est aussi un bricoleur inventif, un beau parleur, un caméléon qui avance déguisé. Se pourrait-il que déjà au temps des Grecs anciens, la société soit désabusée au point que les conteurs choisissent la ruse à l'honnêteté ? Achille dira dans l'Iliade « Il me faut dire ma pensée, pour que vous cessiez de bavasser assis à mes côtés. L'homme est odieux comme les portes d'Hadès. Il cache une chose en sa pensée et en dit une autre. Et Homère de le faire mourir dans la bataille de Troie.
Voilà, vous savez tout ou presque sur l'Odyssée. Je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de l'histoire surprenante des contes de fées.
C'est tout.